Chapitre 73. Nous voici arrivés au dénouement de cette fronde antique, entreprise pour les beaux yeux d'une femme. Alors, comme aujourd'hui, quoique l'Alexandrie de nos jours ne soit pas précisément située sur l'emplacement de l'Alexandrie d'autrefois, alors, comme aujourd'hui, la ville d'Alexandre recevait par des aqueducs l'eau du Nil, et cette eau était distribuée dans des puits et des citernes où elle avait eu le temps de déposer son limon. Les gens du peuple, qui n'avaient ni puits ni citernes, la buvaient trouble, au risque des inconvénients sanitaires qui pouvaient résulter de ce défaut de clarification. Or, l'ennemi, étant maître du fleuve, entreprit de boucher tous les conduits par lesquels l'eau du Nil venait dans les quartiers occupés par les Romains, et, après un travail effroyable, il y réussit. Mais comme César était approvisionné d'eau, que les puits étaient pleins, que les citernes débordaient, cette suspension dans le service des aqueducs l'inquiéta médiocrement. L'ennemi devina bientôt les causes de cette sécurité. Alors il eut l'idée de faire monter l'eau de la mer à l'aide de roues et de machines. Cette eau salée, en se répandant à l'intérieur des puits et des citernes, corromprait l'eau douce et César et sa garnison périraient par la soif. En effet, sous la pression des machines inventées par ces prodigieux architectes qu'on appelait les Égyptiens, l'eau monta et gagna les premiers réservoirs. Les soldats qui venaient puiser à cela crurent qu'ils se trompaient lorsqu'ils trouvèrent l'eau saumâtre. Ils le crurent d'autant mieux que, dans les autres puits plus éloignés, l'eau restait potable. Enfin, peu à peu, l'eau de tous les puits et de toutes les citernes fut corrompue. On vint annoncer cette terrible nouvelle à César. « Eh bien, demanda celui-ci, le front et la voix calme. Que disent les soldats de cet accident ?»« Ils sont désespérés, impérator, répondit celui qui apportait la nouvelle, et se voient déjà réduits à l'extrémité. »« Et sans doute ils me blâment, répondit César. » Le messager hésita. « Oh, parle franchement, reprit l'impérator. « Eh bien, tous pensent que tu devrais essayer de quitter l'Égypte sur les vaisseaux qui te restent, et encore craignent-ils que l'embarquement ne soit impossible. » « C'est bien, dit César, nous nous retirerons, mais victorieux. »« Et l'eau ?» demanda le centurion. « Prends 10 hommes, dit César, va à 500 pas du rivage de la mer et creuse jusqu'à ce que tu trouves de l'eau. Ou cette côte n'est pas faite comme celle des autres pays, ou, avant d'être à 15 pieds de profondeur, tu trouveras des sources. » Le centurion suivit l'ordre donné, creusa et trouva l'eau. 1000 ans après Moïse, César venait de renouveler le miracle des eaux jaillissantes. Tous deux avaient deviné le secret des puits artésiens. Sur ces entrefaites, la 37e légion, que César avait recomposée des débris de celle de Pompée, débarqua un peu au-dessus d'Alexandrie. Elle n'avait pu, à cause des vents opposés, entrer dans le port. Elle ancra donc tout le long de la plage. Mais comme elle manquait d'eau et qu'elle ne savait où en puiser, elle en fit demander à César. César monta sur les quelques galères qui lui restaient avec 300 ou 400 hommes, sortit du port et alla lui-même droit à sa flotte, qui était à 2 ou 3 lieues d'Alexandrie. Arrivé à la Chersonèse, il débarqua quelques-uns de ses soldats pour faire de l'eau. Mais la cavalerie ennemie, ayant pris 2 ou 3 hommes qui s'étaient écartés pour piller, elle apprit de ses hommes que César était lui-même sur les galères. Quelques instants après, Ganymède en était averti. Il fit embarquer immédiatement 2 ou 3 000 soldats sur 20 bâtiments et vint attaquer César. César ne se souciait point d'accepter le combat pour 2 raisons. La première, c'est que la nuit allait tomber dans 2 heures et qu'alors l'avantage serait à l'ennemi, qui connaissait la côte mieux que lui. La seconde, c'est que des soldats qui, comme les siens, combattaient surtout pour être remarqués de César, devaient nécessairement mal combattre dans l'obscurité. Dès qu'il vit venir à lui les vaisseaux ennemis, il relâcha donc sur la côte. Mais il arriva qu'une galère de Rhodes ne put suivre le mouvement et se trouva investie par 4 galères ennemies, renforcées de plusieurs barques. César était en sûreté et pouvait laisser la galère se tirer d'affaire comme elle pourrait. Mais, on le sait, il n'était pas l'homme de ces sortes de ménagements. Il mit le cap de son bâtiment sur la galère attaquée et rama droit vers elle. Au bout d'un combat d'1 heure, où César paya de sa personne comme un simple matelot, il avait pris une galère à 4 rangs de rames, en avait coulé une autre à fond et mis une troisième hors de combat. Les autres, effrayés, s'enfuirent tout éperdus. César profita de leur terreur, remorqua les vaisseaux de charge avec ses galères, qui, marchant à la rame, marchaient contre le vent et rentra avec eux dans le port. Ces sortes de luttes se renouvelaient tous les jours avec des fortunes diverses. Tantôt César battait les Égyptiens, tantôt il était battu par eux. Un jour, sa galère fut tellement pressée et il se trouva tellement accablé de traits, chaque ennemi visant à sa robe de pourpre, qu'il fut obligé de se dépouiller de sa robe, de se jeter à la mer et de faire un trajet de plus de 300 pas à la nage, ne se soutenant que d'une main et portant de l'autre des papiers qu'il élevait hors de l'eau. Sa robe de pourpre, trophée de la journée, tomba aux mains des Égyptiens. Tout cela se passait sous les yeux de Cléopâtre. Comme ces chevaliers du Moyen-Âge qui rompaient des lances pour les beaux yeux de leur belle, César avait ouvert une espèce de tournoi dans la folle et perfide Alexandrie, cette ville légère comme Athènes, superstitieuse comme Memphis. Sur ces entrefaites, César reçut une députation de l'ennemi. Les Égyptiens lui faisaient dire qu'ils étaient las de la domination d'Arsinoé, qui n'était qu'une enfant, et de Ganymède, qui n'était qu'un affranchi. Que, en conséquence, s'ils voulaient leur envoyer Ptolémée, ils se consulteraient avec lui sur leurs intérêts et seraient probablement les premiers à proposer la paix. César connaissait la perfidie de la nation, mais il fallait en finir. Tandis qu'il s'amusait à batailler dans ce coin du monde, il sentait que le reste de l'univers lui échappait. Il fit venir Ptolémée et, lui prenant la main, il lui montra quelle confiance il avait en lui de le renvoyer ainsi aux révoltés et l'invita à prier ses hommes de rentrer dans le devoir. Mais lui, le jeune prince, se prit à pleurer. Il supplia César de ne pas le bannir de sa présence, lui affirmant que sa présence lui était plus chère que ses états. César, qui n'était ni fou ni cruel, se laissa prendre à ses larmes, l'embrassa comme il eût fait de son enfant, et le fit conduire aux avant-postes ennemis. Mais à peine y fut-il que les larmes tarirent pour faire place à la menace, et que César comprit qu'il avait un ennemi de plus. Par bonheur, on a vu que César ne les comptait pas.